Xperium est une structure implantée à l'Iliade, en plein cœur de la cité scientifique de l'Université de Lille. Xperium va lancer sa troisième saison, une saison qui dure 2 ans et qui nous entraînera jusqu'en juillet 2020 sur un thème qui est « Matériaux et numérique en mutation vers l'homme augmenté ». Pour traiter de ce thème, nous avons invité aujourd'hui 2 personnes, Madame Sophie Picard et Monsieur Étienne Milan, qui sont maîtres de conférences et responsables scientifiques d'Xperium. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, c'est toujours une grande aventure, 2 ans, on part après en immersion dans un thème bien précis qui va être présenté au public. Et là, on va parler en l'occurrence aussi de cette présentation dans le cadre de la fête de la science.
Oui, tout à fait. Oui, tous les ans, nous ouvrons notre exposition donc, qui se trouve dans l'Iliade, en plein cœur de la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, au grand public. Donc, il y a 2 dates. La première qui tombe toujours le samedi de la fête de la science, et la 2e date qui tombe aux alentours des journées portes ouvertes de l'université. Donc là, en l'occurrence, cette année, ce sera le 2 février. Donc, samedi, on accueille le tout public, donc de 10h à 17h. L'entrée est libre et gratuite.
On peut peut-être rappeler les thèmes précédents, les 2, on va dire, périodes importantes pour l'Xperium.
Oui, donc on a ouvert maintenant il y a 4 ans et demi, en février 2014, sur la première saison qui concernait l'information comme données scientifiques qui pouvaient être transmises de différentes manières et qui, en fonction des domaines, permettait d'avoir accès à pas mal d'innovations. La 2e saison qu'on a terminée donc en début juillet de 2018, donc très récemment, elle portait sur la 3e révolution industrielle. Qui est une révolution qui est lancée depuis quelque temps avec grand succès par la région. Et donc cette année, on se lance dans des thématiques qui touchent plus à l'homme augmenté, donc autour des matériaux innovants et de la numérique en mutation.
Étienne Milan.
Alors oui, on a eu l'occasion d'accueillir déjà depuis février 2014 plus de 10 600 visiteurs. Donc on imagine l'intérêt qu'il y a à visiter cette fenêtre sur la recherche. C'est vraiment une fenêtre qu'on offre à tous les laboratoires de venir présenter au moyen de quelques stands l'état de leur recherche. Alors non pas de leur recherche fondamentale, mais de la recherche appliquée, des choses qui sont aujourd'hui dans les laboratoires ou qui sont sur le point d'en sortir et que demain, chacun va retrouver dans sa vie de tous les jours. Alors sur la 3e révolution industrielle, peut-être on ne se sent pas trop concerné, quoique beaucoup d'aspects concernaient par exemple le véhicule électrique avec une alimentation un peu particulière, avec des technologies spéciales. Et là maintenant, on arrive sur cette 3e saison matériaux et numériques en mutation. Alors c'est vers l'homme augmenté avec un point d'interrogation, parce qu'en recherche, on se pose sans arrêt des questions. Et en l'occurrence, quand on va peut-être présenter les différents stands et quand on va les présenter au public, on va toujours se poser la question, qu'est-ce que ça apporte? Mais ce qui est certain, c'est que ça apporte toujours quelque chose.
Ce qu'on peut aussi signaler, c'est que votre établissement est en lien proche avec la région Hauts-de-France. Hein, et d'ailleurs, les lycéens sont le plus grand public de cette exposition sur les 4 dernières années.
Les deux tiers représentent effectivement les lycéens, c'est notre public que l'on vise, notre public cible. Le dernier tiers étant constitué d'acteurs de l'économie innovante locale, également des universitaires, des collègues qui viennent visiter. Alors on a des entreprises qui viennent voir, qui viennent nouer des partenariats. C'est l'un des objectifs d'Xperium que de s'intégrer évidemment dans le tissu économique local.
Voilà, c'est vrai que les entreprises ont maintenant des rapports très privilégiés avec l'Université de Lille, enfin certaines d'entre elles tout au moins, et évidemment, elles sont intéressées par la recherche-développement.
Alors, oui. En plus, on a quand même une particularité avec cette 3e saison, c'est que cette 3e saison a lieu après la fusion de l'université. Maintenant, on a une grosse université à Lille, une des premières de France. Et donc, à Experium, on présente ce qui se passe dans, alors pas tous les laboratoires de recherche, bien évidemment, mais on a des stands qui sont basés sur, en lien avec la santé, en lien également avec les arts, les sciences humaines et l'épistémologie, en l'occurrence.
Alors, effectivement, Sophie Picard, là, on est sur un thème pointu, on va dire d'avenir, forcément. On s'intéresse à l'homme augmenté. Déjà, dans notre vie quotidienne, on ne sait pas si on est vraiment tout seul face à ce qu'on fait. On a aussi des assistants qui sont plus ou moins externes. Certains, parfois, de plus en plus, peut-être internes. Et c'est peut-être un petit peu tout ce débat.
Voilà, ben en fait là, c'est vrai que le principe de l'homme augmenté, c'est d'essayer, il y a plusieurs thématiques, hein, ralentir le vieillissement pour qu'on puisse vivre en plus longtemps, en meilleure santé, devenir plus intelligent, être accompagné des nouvelles technologies pour avoir une vie meilleure, plus agréable. Et là, c'est vrai que dans cette thématique, on a pas mal de stands en lien avec la santé. Notamment, donc, par exemple, il y a un stand qui est consacré à des prothèses qui peuvent être vasculaires, cardiaques, viscérales, etc., hein, qui sont imprégnées de principes actifs, grâce à des molécules cache qu'on appelle cyclodextrine, qui provient de l'amidon, donc ça permet de faire un petit lien avec la saison précédente, puisque l'amidon, c'est végétal.
Oui, on en cultive des pommes de terre région.
Et là aussi un lien avec le monde industriel, puisque c'est vrai que c'est une grande entreprise de la région, donc Roquette, un amidonier qui fournit ces cyclodextrines. Donc ce sont des molécules cages qui peuvent être greffées sur les prothèses pour piéger, capter les principes actifs qui pourront être libérés de manière prolongée, vraiment in situ, dans le corps humain, quand la prothèse sera donc placée au bon endroit, ce qui évite vraiment les problèmes d'infection, donc la mortalité éventuelle, ou alors les problèmes de douleurs chroniques. C'est vrai que si jamais on ne soigne pas la douleur tout de suite, la douleur risque d'exister à vie, des problèmes de rejet, etc. Ça c'est un exemple, par exemple, de recherche qui est montrée avec des démonstrations ludiques. C'est vrai que dans chacun des stands, ce sont des animateurs doctorants, donc des jeunes qui sont en thèse, qui sont en préparation de thèse dans le laboratoire dont est issue la manip de recherche. Et ils présentent de manière simple au départ, ils amènent le public, qui peut être à partir des élèves de 3e, par exemple, hein, à comprendre la problématique et avec des démonstrations, des manipulations, il peut expliquer un petit peu la recherche en détail.
Donc le corps augmenté, certes, il y a aussi peut-être la vie prolongée ou du moins une meilleure vie.
Par exemple, c'est vrai que il y a la tablette tactile. Donc, qui est aussi exposé. Là, c'est de l'électronique, c'est plus du confort que lutter contre le vieillissement.
Pour en parler, peut-être, on peut expliquer qu'aujourd'hui, on a des tablettes, des écrans qui nous envahissent. On communique avec les écrans. On a besoin souvent pour parler à notre smartphone de lui toucher l'écran pour taper un texte ou on a besoin de le toucher. Et en retour, on n'a pas de retour. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir l'écran pour que l'écran nous parle. Et ça, c'est particulièrement gênant. On imagine qu'aujourd'hui, sur certains types de véhicules, on est obligé de quitter les yeux de la partie importante, c'est-à-dire la route, pour pouvoir régler le volume de son autoradio, parce que ça se fait avec une tablette tactile. Alors évidemment, ça pose des gros problèmes. L'idée de cette manipulation de tablette à retour tactile, qui est proposée par le laboratoire L2EP, c'est de proposer un retour sensitif. On sent avec le doigt un objet virtuel. Ça peut être un curseur pour régler le volume, ça peut être n'importe quel type d'objet. Et donc, c'est assez intéressant de voir que les objets, les tablettes maintenant, vont nous parler également, évidemment, par la vision, mais aussi par le toucher.
Alors, c'est drôle parce que pendant longtemps, sur les autoradios, il y avait des boutons qu'on tournait. Et là, on a inventé les touches digitales qui nécessitent effectivement de mobiliser la main, etc. Ce qui est très stupide finalement. Donc, parfois, certaines évolutions technologiques ne sont pas vraiment des progrès. Et on trouve une troisième forme, là, en l'occurrence, de manipulation adaptée à des conduites moins dangereuses, à un confort aussi de conduite. Voilà, on essaie toujours de tendre vers... là, en l'occurrence, ce sera un progrès.
Alors, on reproduit effectivement ce que vous évoquiez avec les boutons que l'on manipulait auparavant de manière analogique, comme par exemple pour régler le volume de son autoradio. On reproduit exactement ce toucher-là de manière virtuelle, mais on a l'impression, on peut avoir l'impression, on trompe évidemment le sens du toucher humain, on trompe le haptique de l'humain, mais on peut avoir vraiment l'impression de manipuler un vrai curseur, alors qu'en fait, on est simplement en train de promener son doigt sur une tablette et avoir ensuite l'effet que le numérique va permettre. Et le numérique aujourd'hui permet tous les effets que l'on veut.
Mais il y a aussi une autre application qui est complètement différente justement sur cette tablette, qui est par exemple quand on commande sur sa tablette un vêtement sur Internet, là il y aura carrément possibilité d'avoir l'impression de toucher le tissu. Donc le client pourra en plus de le voir... avoir la douceur ou alors la fourrure.
Bon, c'est pas sur l'autoradio, on est d'accord.
Non, hein. C'est pas sur l'autoradio, non.
Mais les personnes, alors on va dire que c'est davantage des femmes que des hommes qui ont été sensibles à cela, on dit c'est très intéressant de pouvoir toucher une texture, ou du moins d'en avoir une idée, avant d'acheter un vêtement, parce que ça permet de se faire vraiment une idée du toucher de ce vêtement.
Alors c'est drôle, je pense que c'est encore en place... au musée de la piscine, au musée du textile, hein, il y a des espaces où on met la main, on touche des structures sonores, des structures avec du des
satin,
fibres,
de l'asphalte,
voilà,
ouais.
Et on essaye de deviner quel est ce matériau qui est tissé en général. Hein, et c'est vrai que c'est parfois étonnant d'être déconnecté de la vue pour apprécier avec les doigts.
Voilà, donc du coup, cette tablette tactile permet d'éviter la vision, mais d'avoir l'impression.
On imagine aussi toutes les applications pour des gens qui sont déficients visuels, parce que des personnes déficientes visuelles, évidemment, ont l'habitude de communiquer par un alphabet braille, mais là, on peut leur donner accès, et c'est de manière très naturelle que les personnes déficientes visuelles ont accès au sens du toucher. Elles se servent du sens du toucher pour appréhender une grande partie du monde.
Voilà, elles pourront faire des commandes, ce qui leur évitera d'être refoulées des magasins, dont je dirais peut-être la marque, l'enseigne, parce qu'elles viennent avec des chiens.
Par exemple.
Par exemple.
Alors, ça permet d'ailleurs de faire un lien avec un autre stand qui va être proposé dans cette saison, qui parle des systèmes de vision, systèmes de vision évidemment artificiels, mais bio-inspirés. Je m'explique, aujourd'hui, quand on a une caméra, la caméra visionne souvent de manière meilleure que l'œil. Hein. Elle visionne une scène et ensuite, elle consomme beaucoup de bandes passantes, beaucoup de place pour transmettre l'information à une unité centrale qui va traiter cela. Alors que la façon que notre œil et notre cortex visuel a de procéder est complètement différente. Alors on a des collègues de l'IUMN qui ont travaillé sur ces différentes structures, aussi bien la partie vision, un capteur, que la partie traitement de l'information, des neurones. Et ils ont créé donc des neurones bio-inspirés qui ont la particularité de consommer très peu d'énergie. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les systèmes de traitement de l'information consomment énormément d'énergie. Et le traitement de l'image est un gros consommateur d'énergie. Donc l'idée là, c'est de mettre ensuite un système neuronal. Alors on sait déjà faire des systèmes neuronaux, mais généralement ces systèmes neuronaux, ils sont réalisés avec des simulations. Hein. Ça permet ensuite de leur permettre l'apprentissage, etc. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système neuronal physique, des composants que nos collègues électroniciens réalisent et qui permet ainsi, alors pourquoi pas, d'imaginer à terme une réparation d'une vue déficiente, hein, pourquoi pas, et donc de permettre de transmettre ou alors de faire du traitement de données de ces capteurs qui sont de ce fait bio-inspirés.
Voilà. Il existe déjà des systèmes qui de neurones artificiels, mais qui nécessitent l'utilisation de grosses lunettes. Et là, leur innovation, c'est de n'avoir besoin de rien d'autre que le neurone artificiel. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est, là, si on parle vraiment d'homme augmenté.
On répare l'homme.
Je ne sais pas si ça nous aidera, nous, en radio ou même en vidéo, à trouver d'autres solutions que la compression de données, hein, et donc la dégradation des informations.
Clairement, l'idée est de changer complètement de mode de transfert. Mm-hmm. Aujourd'hui, pourquoi on compresse les données ? Parce qu'on transfère les données de manière sérielle, c'est-à-dire qu'on va en transférer une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et évidemment, cela consomme beaucoup de bande passante quand on a beaucoup de données à transférer. Le parallélisme qui est présent dans notre nerf optique et dans notre cortex, ce parallélisme fait que toutes ces informations ne transitent pas très vite, mais sont traitées toutes en même temps. Et donc ça permet évidemment d'avoir une forte réduction de consommation et évidemment de bande passante. Mmh.
Voilà, donc en multipliant les canaux plutôt qu'en tous en passant dans le même fil.
Tout dans le même tuyau.
Alors, donc je rappelle des événements importants, hein, notamment cette journée.
Voilà. Donc samedi, donc 13 octobre, 10h-17h, on vous accueille avec grand plaisir. Il y aura normalement tous les stands qui seront ouverts. Voilà, donc il y a moyen d'y rester 2 minutes ou 7 heures.
Alors, on en a présenté quelques-unes, hein, de ces applications, de ces stands avec des thèmes différents. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore traité qui sera présenté samedi ?
Alors, il y a un thème qui est en relation avec la partie sciences humaines, c'est comment viennent les bonnes idées. On pourrait résumer ça avec cette question-là. Parallélisme, analogie, on se rend compte que les grandes idées scientifiques sont venues à certaines époques, alors c'est l'épistémologie, hein, c'est l'histoire des sciences, mais certaines idées scientifiques sont venues à certaines époques parce qu'on était dans un contexte favorable et également parce que certaines autres découvertes analogues ou semblables ou comparables avaient été déjà faites. Et on a transféré, alors ce sont des grands savants, hein, ce sont des découvreurs qui ont transféré ce qui avait été fait dans un autre domaine à leur propre domaine de recherche. On a comme cela des choses sur la théorie de l'information de Shannon. On a des exemples. Alors, ce qui est présenté sur le stand, ce sont quelques petites expériences de physique très intéressantes, mais qui montrent de quelle manière tel ou tel personnage s'est inspiré de telle ou telle réalisation, de tel ou tel travaux d'un autre personnage scientifique très célèbre.
Et peut-être un jour, d'ailleurs, on valorisera davantage les recherches qui sont faites en sociologie ou des matières comme ça, qui n'ont pas toujours de partenaire économique, mais qui permettent à des gens de réfléchir et de concevoir autrement la société, mais aussi des systèmes d'information, des systèmes de connexion.
Pourquoi pas ?
Voilà. Alors, on va rappeler que nous parlons de Xperium, que Xperium se situe à l'Iliade L-I-2-L-I-A-D, qui est le Learning Center Innovation, en Hauts-de-France, hein, c'est à Villeneuve-d'Ascq sur la cité scientifique, que d'une manière générale, après ces journées portes ouvertes, ces journées sur la recherche et l'innovation avec les lycéens, on pourra voir cette exposition en permanence ?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on ouvre au grand public deux fois par an. Le reste du temps, donc c'est-à-dire les deux tiers de nos visites, ce sont des enseignants de l'académie qui me contactent de manière à programmer leur venue avec leurs élèves. On est gratuit, donc ce qui est intéressant pour eux. Donc on accueille des classes, ça va de plus rarement de la troisième, mais des zones défavorisées par exemple, des secondes, premières, terminales. On a aussi des BTS, on accueille aussi des étudiants, mais ça c'est dans un autre contexte. Mais les enseignants me contactent, on essaie de se caler une date, un créneau à leur convenance. En général les visites durent entre 1h30 et 2h. Parce qu'après, ça fait trop.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, ça leur permet d'assister à la présentation de 4 à 5 stands. Le principe, c'est qu'on fait des petits groupes, ils vont sur chacun des stands. L'animation dure 15 minutes environ. Et après, on permute. Et ça permet aux élèves de rencontrer les jeunes doctorants, de poser leurs questions, d'avoir une idée de travailler sur leur éventuelle orientation, de faire un lien entre les programmes, ce qu'ils ont vu en cours, qui peut être plus abstrait et du concret qu'ils vont pouvoir voir dans la vie de tous les jours. ça leur permet de les éveiller, de manipuler. Voilà.
Donc ça peut se préparer déjà en classe avant.
Oui, en fait, on a beaucoup de chance d'avoir le rectorat pour partenaire qui nous accompagne dans la rédaction de fiches pédagogiques via des enseignants qui sont missionnés pour nous, qui viennent pour assister à, pour rencontrer les chercheurs, pour pouvoir en co-écrire avec les chercheurs des fiches et faire le lien stand par stand avec des programmes qu'on crée niveau par niveau. Donc cette fiche, on peut l'envoyer avant ou après, bon, en général avant, à l'enseignant s'il le souhaite, ce qui lui permet donc de s'appuyer dessus sur la visite pour ensuite continuer à travailler sur ces notions-là et qu'il est en train d'étudier avec sa classe.
Vous avez déjà des rendez-vous fixés ?
Oh oui, 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 oui. L'année dernière, on a accueilli donc 3500 visiteurs, donc bon, plus de 2000 lycéens. Donc la demande la plus tardive, c'est fin mars, par exemple. Bon, après, on en a là qui démarre très vite. Voilà, donc on est très content de ce succès, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de travailler dans cette structure qu'on estime prestigieuse et on a la chance de pouvoir côtoyer des chercheurs de la recherche exceptionnelle et voilà, qui, avec un effet waouh.
À l'Université de Lille, on a certains outils qui n'existent, pour ainsi dire, pas dans le reste du monde. Donc c'est l'occasion de voir ces outils à l'œuvre. C'est l'occasion aussi de voir cette recherche qui sort des laboratoires. Les lycéens ont souvent une image très déformée de l'université, une image très déformée du monde de la recherche. À leur corps défendant, ils en ont rarement entendu parler. Et là, c'est l'occasion pour eux de rencontrer des doctorants, de rencontrer des laboratoires, de voir que la recherche, c'est quelque chose qui va les toucher, qui les touche déjà tous les jours. Et donc, ils vont pouvoir, comme cela, discuter et peut-être, pourquoi pas, venir à l'université pour une bonne raison.
Ça peut compléter aussi les journées portes ouvertes de l'université, bien sûr.
D'ailleurs, oui. Nous sommes ouverts lors des journées portes ouvertes.
Ben voilà. Ouais. Et c'est vrai que bon, on a la chance aussi d'être situé dans l'Iliade, ce bâtiment magnifique et tourné lui aussi vers les nouvelles technologies de recherche bibliographique. Et il n'est pas rare qu'on couple les visites d'Experium à la demande des enseignants avec une visite de l'Iliade. Souvent, en plus, les enseignants sont des anciens de l'université qui ont connu l'ancien bâtiment, la BU, la fameuse BU, qui maintenant est devenu ce bâtiment qui émerveille beaucoup, en fait.
Et aussi technologiquement, qui est super équipé.
Hein, super équipé, avec une sacrée évolution dans le confort des étudiants, dans les outils proposés aux étudiants, à travers les 50 salles qui peuvent être réservées par eux pour travailler entre eux, avec une technologie aussi à leur disposition, qui est très pratique.
C'est vrai que à Pont-de-Bois, ils cherchent encore la formule pour réaménager cet espace de bibliothèque qui existe encore maintenant et qui devrait se transformer quand les conditions seront réunies, pour dire les choses clairement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire avant de nous quitter de manière très pratique, pragmatique, sur les gens que vous attendez ?
Ce samedi, de 10h à 17h, on est ouvert au grand public, donc n'hésitez pas à venir visiter à l'occasion de la fête de la science la nouvelle saison d'Experium sur les matériaux et le numérique en mutation.
Et pour plus d'informations, il y a moyen aussi d'avoir toutes les informations sur le site. Vous tapez Experium, X-P-E-R-I-U-M, et vous allez tomber sur le site de l'Iliade qui explique vraiment en détail le programme de la fête de la science à Experium et qu'on pourra retrouver aussi tout au long de ces deux années.
Merci Sophie Picard, merci Étienne Milan. Je rappelle que vous êtes maître de conférence et responsable scientifique à Experium, donc dans l'Iliade de l'Université de Lille. Je vous souhaite une très belle journée de présentation, découverte, de la recherche, de l'innovation pour ce samedi et pour les jours à venir.
Merci
très bonne journée.
Merci. Au revoir.